pour vous, voici Page après page avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec un auteur.
Dans mon petit bar qui paye pas de mine, j'étais tranquille, j'étais pépère, avec mes copains de routine, percolateur et pompe à bière. Quand un beau soir ils sont entrés, quatre playboys et trois donzelles m'ont dit avec autorité, nous souhaiterions boire un cocktail. On veut un rhum pomme, un gin grenadine, une vodka Nutella, une tequila Tagada, un Beaujolais, un Sauvignon Passion, un Baileys Fraise, un whisky Kirikiwi. Ils ont dû se tromper d'adresse, on dirait qu'ils ne pigent pas, ou que c'est qu'ils ont posé leurs fesses, ici c'est pas le Lutetia. Seulement voilà, par ces temps de crise, faut pas refuser la clientèle. Ni une ni deux, hop, j'improvise, je vais leur en faire moi des cocktails. En v'là du rhum pomme, du viandoxon de rox, du sazano tabasco, du pernod porto pruneau, du guignolé, du bartisol menthol, du ricard poire, du whisky kirikiwi. D'autres clampins, je leur ai servi mes créations. Y en a aucun qui a vomi. Y en avait même pour dire oh, c'est bon, mais c'est vraiment the place to be. Dans mon petit bar qui paye pas de mine, c'est le défilé des vedettes. Je crois que j'ai trouvé la combine. Chaque jour une nouvelle recette. Je fais des rom-poms, des jeans grenadines, des vodka Nutella, des tequila Tagada. Je fais du kirmir, du pif avec du sif, du desktop yop, du whisky kirikiwi, du malibu-mini-dou, du pomerol vitriol, de l'eau de vaisselle Javel. Et ça, ça part comme des petits pains. Alors, ce qui marche très très bien aussi, c'est le Red Bull Fuel, le mescal gasoil et mais ça c'est un peu... Il y en a qui sont restés coincés quoi, ils sont venus aveugles et tout. Bon, excusez-moi, est-ce que vous faites le picon oignon goudron? Hein? Il est pas bon, hein?
Bonjour à tous et à toutes, de retour dans votre radio préférée en cette rentrée 2023. Eh bien, moi aussi, je reviens avec mes auteurs pour une année de plus. Je vous propose un voyage en Occitanie, notre belle région, et ça se fera avec Audrey Marty, qui est historienne de l'art. Bonjour Audrey.
Bonjour Gisèle et bonjour les auditeurs de Radio Galaxie.
Pourquoi cette musique que vous avez choisie, Rome Pomme? Mais c'est Juliette que vous avez certainement voulu mettre en avance pour commencer cet entretien.
Oui, effectivement, j'aime beaucoup la chanteuse Juliette, qui est une chanteuse toulousaine. Elle a toujours beaucoup d'humour dans ses chansons et ce titre est particulièrement drôle. Et donc, je trouvais que ça donnait une bonne ambiance pour commencer voilà, dans la bonne humeur.
Eh bien, on a apprécié. Merci beaucoup.
Merci.
Qu'est-ce qui vous passionne dans notre Occitanie et plus particulièrement Toulouse?
Ce qui me plaît, c'est la grande variété, en fait. Comme l'Occitanie est une grande région, maintenant, on a réuni Midi-Pyrénées et donc Languedoc-Roussillon. Et c'est vraiment une grande région qui a beaucoup de paysages différents, d'accents différents, même si les étrangers disent qu'on a tous le même accent, mais non, on est vraiment... chacun a, voilà, a son identité. Et puis c'est intéressant, voilà, d'Ariège au Lot ou au Tarn-et-Garonne. Voilà, je trouve que c'est une belle région.
On va faire ce voyage dans les 13 départements que compte notre Occitanie d'aujourd'hui, sur les 22 quand même que comptait la vraie Occitanie dans l'histoire. Hein, 13 départements que nous allons parcourir et j'invite aussi les auditeurs justement à se procurer ce nouvel ouvrage parce que justement ça va les faire voyager aussi et il est magnifique. Je pense qu'il fait partie des beaux livres. Peinture et couleurs d'Occitanie, c'est son titre, c'est paru chez Le Papillon Rouge Édition et c'est paru en octobre 2022. C'est un livre, je pense, qu'il faut mettre dans la hotte du Père Noël. Magnifique. L'histoire de l'art, puisque l'Occitanie a toujours été un carrefour pour les populations, c'est une richesse que vous nous montrez aujourd'hui ou pas?
C'est un travail collectif que j'ai réalisé avec mon éditeur. C'est lui qui est à la base de l'idée, il est, donc Hubert Delobette, qui s'occupe du Papillon Rouge. C'est lui qui a développé cette collection en fait de livres de format carré qui font à peu près tous 200 pages et qui mettent en avant, par exemple, il a fait Le Grand Toulouse et ses peintres, donc avec moi qui était le précédent. Oui. Il a fait aussi Montpellier et ses peintres, le Salagou. Voilà, il aime bien mettre en avant la région, particulièrement le Sud-Ouest, et à travers les peintres figuratifs. Et moi, il m'a confié ce deuxième tome, on va dire, par rapport à Toulouse.
Oui.
Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de redécouvrir les 13 départements à travers les artistes qui ont immortalisé les paysages sur leur palette, enfin, sur leur chevalet. Et c'est vrai que chacun a pioché dans le paysage les éléments les plus jolis ou les plus originaux. Vraiment, ça fait une palette de couleurs très originale et on apprend beaucoup de choses sur la région.
C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est aussi l'ensoleillement qui fait l'abondance des peintres en Occitanie ?
C'est vrai que ça y participe parce que j'explique dans le livre que à partir du 19e siècle, avec notamment les impressionnistes, beaucoup de peintres sortent de l'atelier et vont aller peindre directement sur le motif. Et c'est facilité notamment ça par le fait d'avoir des chevalets, l'invention aussi du tube de peinture qui permet aux artistes de pouvoir sortir. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup attirés par forcément les paysages ensoleillés.
Oui.
Et donc notamment il y a le peintre Matisse qui a inventé le fauvisme à Collioure. Donc c'est vrai que c'est une région qui est très inspirante.
Oui, c'est vraiment Auguste Renoir qui a mis les peintres dehors, si on peut dire.
C'est vrai que ça a été le premier avec son tableau. Alors c'est une vue d'un port le soir.
Oui.
Et c'est vrai que tous les artistes après ont trouvé vraiment fascinant cette façon de capter l'instantané. Voilà, c'est ça qui plaît à ces peintres, c'est capter l'instantané d'un moment, d'une saison, de la déclinaison du soleil.
Oui. Et est-ce qu'il y a des sites qui sont plus photogéniques pour l'œil du peintre ou pas?
Je pense qu'après, ça dépend peut-être de leur propre nature et de leur propre goût aussi.
Oui.
Mais après, c'est vrai que tout ce qui est, par exemple, à la fin du 19e siècle, c'est beaucoup développé aussi le fait de représenter les montagnes.
Oui.
Et les montagnes ont un côté fascinant qui plaît beaucoup parce qu'elles sont à la fois majestueuses et elles peuvent être dangereuses aussi.
Tout à fait.
Et quand ça a été possible par... la construction des chemins de fer dans le sud jusqu'à Foix et jusqu'à la tour de Carole par exemple, les artistes ont pu aller dans ces terres reculées et ils ont peint des choses assez merveilleuses. Il y a eu Gustave Doré notamment qui est venu dans le sud-ouest.
Et d'ailleurs il y a un tableau avec une cascade qui est magnifique dans votre livre.
C'est ça exactement.
Vous avez eu des difficultés pour faire des recherches justement de peintres ou pas, ou votre éditeur vous a aidé et vous a dit voilà ce que je propose et tu tries là-dedans?
Non, en fait, à la base, oui, c'est moi qui ai fait les recherches iconographiques. Mon éditeur, il m'a beaucoup aidé pour tout ce qui concerne la région, enfin, le département de l'Hérault, puisque lui, il est héraultais. Il avait déjà, comme il avait travaillé sur Montpellier et ses peintres, il connaissait déjà un peu pour ce département-là, il m'a aiguillé, ainsi que pour le Gard. Mais ensuite, le reste, quand c'est des endroits comme Collioure ou comme Carcassonne, toutes ces départements-là, même Montauban, ils ont un musée qui est déjà très riche et eux ont pu m'aider. Par contre, pour l'Ariège ou la Lozère, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas trop de musées. Et donc là, j'ai dû faire appel plutôt aux élus locaux, aux collectionneurs particuliers qui m'ont permis de découvrir des artistes.
Oui.
Donc, il y a eu plusieurs approches différentes selon le département.
En effet. Comment expliquer que la façon de peindre change à partir de l'après-guerre et un petit peu plus tard, est apparue une autre façon qui ressemble plus à un dessin colorié qu'à de la qu'au tableau qu'on connaît jusque-là des grands peintres.
Mais justement, c'est ce qui m'a plu dans les artistes récents, comme par exemple il y a Rémi Perran, entre autres, ou alors Vincent Dumollard. Ce sont des artistes en fait, qui aimaient bien, eux, se balader et avoir un croquis, enfin un carnet de croquis avec eux pour dessiner à main levée. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai choisis qui ont fait plus comme vous dites, des dessins colorés que vraiment des grandes peintures.
Oui.
Parce qu'ils voulaient justement pouvoir se déplacer tranquillement et peindre selon leur goût. Et c'était plus compliqué d'avoir à se déplacer avec de la peinture à l'huile qui met du temps à sécher.
Oui.
Je pense que c'est ça qui a attiré les artistes plus récents. Mais après, il y en a qui continuent, par exemple, ils prennent des photos et ils peuvent commencer des ébauches à l'extérieur et ils finissent après à l'atelier. Donc
oui.
Ça, c'est faisable aussi.
Est-ce que c'est à partir du 19e siècle que s'est passée cette ruée vers l'Occitanie ou pas ?
Mais comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait le développement du chemin de fer, ça
oui.
a beaucoup aidé pour désenclaver la région.
Oui.
Et il y avait beaucoup de gens qui venaient au départ pour faire plutôt des cures thermales, notamment dans les Hautes-Pyrénées, ou donc à Luchon, oui. en Haute-Garonne. Et donc ça a permis d'ouvrir un peu le tourisme, on va dire. Et ça a aussi ouvert une brèche pour les artistes, notamment pour les affichistes, par exemple.
Mm-hmm.
Et j'ai mis une affiche dans le livre
oui.
qui est de Ulpia Checa, je ne sais pas si je le prononce bien, c'était un peintre espagnol qui était basé donc, à Bagnères-de-Bigorre.
Oui.
Et il a fait des affiches, par exemple, qui montraient, il me semble, que c'était les thermes à Bagnères-de-Bigorre. C'était des artistes voilà, qu'on sollicitait pour ce côté touristique.
Oui. Avec ce livre, ces 88 auteurs que vous avez recensés, il doit y en avoir certainement beaucoup plus. Vous êtes finalement une grande ambassadrice culturelle de l'Occitanie, qui regorge de très beaux sites d'ailleurs. Finalement, ça donne envie d'aller voir ces sites qui ont été peints ou pas. Vous êtes une spécialiste de l'art, vous devez savoir si les gens vont faire le déplacement pour aller voir justement.
Mais c'est un peu le but de cet ouvrage. En fait, c'est un ouvrage qui introduit la peinture. C'est pas quelque chose. Ça peut être aussi bien pour les spécialistes que pour les néophytes. Voilà, c'est
oui.
vraiment un avant-goût de la peinture pour donner envie après aux gens de pouvoir aller sur les sites. Et dans le livre, justement, on identifie tous les artistes et tous les musées et pour donner envie aux gens d'aller dans ces musées-là découvrir des personnalités originales. Et celle que j'aime bien, par exemple, il y a Blanche Audin qui est une aquarelliste.
Oui.
Et il y a une partie du petit musée de Sally à Bagnères-de-Bigorre
oui.
qui lui consacre toute une aile. Et donc, c'est très intéressant de découvrir cette personnalité.
Oui.
Et vous avez des plus petits musées aussi dans le Tarn, comme j'aime bien le musée du Pays Rabastinois ou le musée de Cocagne à Lavore. Et c'est vraiment des lieux qui, régulièrement, d'ailleurs, ils mettent en avant les artistes locaux.
Oui.
Et j'encourage les gens vraiment à se déplacer. C'est pas si loin. Ça permet vraiment de voyager en Occitanie.
Oui, tout à fait. Comment vous est venu ce goût, justement, pour l'art et comment vous avez fait pour vous diriger vers cette culture-là et vers ces études-là aussi?
Mais j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est artistique, en fait, sans avoir forcément, moi, de talent particulier. Je ne savais pas dessiner, je ne savais pas chanter, ou j'essayais, mais bon, voilà, c'était pas... Et c'est vrai que dans l'écriture, j'ai trouvé cette façon de pouvoir faire un peu de l'art et mettre en avant des artistes qui me plaisent et qui ont un talent que je n'ai pas, et dont notamment les peintres.
Oui.
Mes parents m'amenaient, quand j'étais petite, en fait, dans les musées, quoi. Ça s'est fait comme ça, déjà, naturellement. Et je me souviens aussi d'une professeure... Bon, j'ai oublié son nom, c'était il y a longtemps, mais à l'école primaire, on avait fait un voyage à Paris. Donc vraiment, c'était quelque chose d'assez fabuleux à cette époque-là. Je devais être en CM2. Et il nous avait amené pour découvrir en fait Matisse à Beaubourg. Et on avait fait ce qu'on appelle des papiers découpés. C'était un art qu'il avait développé, lui, parce qu'il était devenu malade. Et au lieu de peindre, il découpait des couleurs pour composer des images. Et on nous avait présenté cet artiste. Et enfin, ça a dû me marquer. Et depuis, c'est des choses qui...
Oui.
Et donc, j'ai choisi après, dans les études secondaires, de m'intéresser aux artistes. Et je suis partie un an à Venise en Erasmus. J'ai travaillé, moi, sur le peintre Paolo Veronese. Et par contre, pour les peintres de la région, c'est mon éditeur qui m'a mis le pied à l'étrier.
Oui, mais comme vous connaissez l'histoire de l'art, ça vous est plus facile de décrypter les tableaux de regarder les tableaux autrement.
De faire un choix ou de pouvoir comparer les œuvres. Oui, ça, c'est quelque chose... Mes études me servent pour ça. Mais après, vraiment, je suis contente d'avoir découvert les artistes locaux parce
oui.
que j'en connaissais pas beaucoup finalement et j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que les autres apprendront.
Ah,
voilà,
mais tout
aussi.
À fait. Et moi, j'ai été vraiment agréablement surprise d'une. Et puis, j'ai retrouvé, on en parlera un petit peu plus tard, j'ai vu un tableau qui m'a vraiment scotché, quoi. Hein. Vous avez été dans les communes, les musées, les offices de tourisme. Comment y avez-vous été accueillie, justement, pour pouvoir étayer votre livre ?
Mais les gens étaient très intéressés, en fait, parce qu'ils se disaient que ça allait pouvoir mettre en avant un peu leur collection,
oui.
ou certains artistes qui sont encore peu connus. Et donc, j'ai bien aimé notamment aller en Ariège. Je suis allée à Saint-Giron. J'ai rencontré l'adjointe au maire, qui était spécialisée de la culture. Je suis allée à Seix aussi, qui est à la mairie. Ils ont des œuvres de Gaston Lagor aussi, qui sont dans les bureaux. C'est marrant parce que je suis allée vraiment voilà, dans les coulisses un peu pour trouver plein d'artistes.
Oui.
Et ça, c'était très intéressant. Et oui, à chaque fois, j'ai été vraiment très bien accueillie. Je me souviens au musée de Gaillac et au musée de Rabastens, les responsables m'ont fait des visites particulières. Donc, j'ai pu voir vraiment les fonds, les collections.
Et donc, je suppose que vous avez pris des photos. C'est vous qui les avez prises ou c'est quelqu'un qui vous a aidé?
Sur le livre, il y a marqué Crédit Audrey Marty. Donc là, c'est moi qui ai réalisé les photos.
D'accord.
Sinon, après, ben, on demandait justement au service numérique des musées
ah, oui.
pour nous fournir le fichier au bon format, voilà, parce qu'il fallait quand même un format de qualité pour pouvoir
oui.
faire après une représentation
oui.
dans le livre.
Tout à fait. Page 35, je trouve le tableau de Paul Cibra superbe. Comment s'y prenaient les artistes pour faire justement les tableaux? Parce que est-ce que c'est une photo qui existait et dont ils se sont servis ou est-ce qu'ils faisaient une photo sur le moment? Parce que il y a des détails et on ne peut pas les garder tous en mémoire, ce n'est pas possible. Même les plus grands peintres doivent avoir une astuce.
Pour le tableau en particulier là, du Louragais de Paul Cibra, c'est un melting pot en fait, un peu de tout ce qui est intéressant dans la région, puisqu'il a mis les moulins du Louragais, il a mis le canal du Midi. En premier plan, on voit une paysanne qui donne le sein à son enfant. Elle est entourée d'autres enfants. Il y a aussi des grosses miches de pain, il y a du vin, des cruches de lait. Et derrière, on voit donc des laboureurs. Et en fait, c'est une composition idéale, on va dire, de ce que le peintre voulait représenter.
Oui.
Et on l'appelle d'ailleurs le peintre du Louragais, Paul Cibra. Donc je pense qu'il a voulu vraiment... c'est un tableau hommage, voilà.
Oui,
donc celui-là, c'est un peu une invention,
oui.
une recomposition dans son esprit de tout ce qu'il peut y avoir dans le Louragais. Et justement, à côté, il y a aussi une œuvre d'Achille Loger, Les Amandiers en fleurs au printemps.
Il est beau
voilà.
celui-là.
Et celui-là, justement, il a été composé par l'artiste qui, lui, avait son atelier qui n'était pas très loin.
Ah oui, donc voilà. Ça lui a permis de...
Il y en a, il faisait comme ça, comme aussi Henri Martin. Henri Martin, dans le Lot, il avait justement une propriété et qu'il aimait représenter les paysages de la Bastille du Vert, notamment.
Oui. Oui.
Et d'ailleurs, j'encourage les gens à aller au musée qui vient de réouvrir là, à Cahors, le musée Henri Martin,
oui.
qui est vraiment super beau et qui met en avant les œuvres de ce post-impressionniste qui fait la fierté, on va dire, de la région.
Oui, oui, oui. Pensez-vous que le côté languedocien soit plus fécond en peinture que le côté gascon ou pas? Ou est-ce qu'il ne faut simplement pas les dissocier?
Justement, là, j'étais en train de regarder la composition qu'on a choisie là, pour la couverture du livre.
Oui.
Et on a mis deux œuvres, on a compilé deux œuvres. Donc, il y en a une qui représente une œuvre d'Henri Martin, donc qui représente les laboureurs qui sont en train de travailler dans des champs dans le Quercy.
Dans la vigne même, ils travaillent
voilà.
carrément.
Dans la vigne, voilà, dans le Quercy. Et en dessous, on a mis une œuvre de Rémi Perrane qui représente la baie de Polille, qui est dans les Pyrénées-Orientales.
Ah
et,
oui.
et ce choix, en fait, c'était justement pour montrer qu'on a oublié aucun des versants de l'Occitanie. Bon, là, il manquerait peut-être une vue de la montagne, mais bon, c'était un peu compliqué de mettre trois œuvres.
Ah, oh, il est quand même un petit peu au fond de la montagne sur
voilà.
le tableau du bas.
Voilà, c'est vrai, on la devine un peu.
Il y a la
avec,
naissance des Pyrénées.
C'est ça, le tout début, peut-être un peu, on aperçoit le mont Canigou, mais voilà, c'était une volonté de montrer qu'on veut mettre en avant les deux et qu'il y a les deux qui existent. Mais c'est sûr que dans les œuvres les plus connues, comme je parlais tout à l'heure du fauvisme avec Matisse ou Derain, c'est vrai que là, pour le coup, c'est beaucoup plus le sud-ouest, les Pyrénées-Orientales, on va dire, qui ont inspiré les artistes.
Le côté languedocien.
C'est ça.
Le Gers, très connu pour l'art culinaire, hein, on ne peut pas nier l'évidence.
C'est vrai.
Et vous nous le montrez sous un autre angle. Il est riche en tableaux aussi, ou pas trop, ou il y a ce qu'il faut?
J'ai dû passer par le musée, maintenant il s'appelle le musée des Américains, c'est le musée de peinture d'Auch.
Mmh.
Et j'ai dû passer par eux pour avoir accès à certains artistes, parce que je ne les connaissais pas, je l'avoue. Et donc c'est des tableaux qui sont affichés chez eux, qui m'ont permis d'utiliser. Et notamment un artiste italien que je ne connaissais pas, c'était un artiste italien qui était exilé dans le sud, et il a fait des œuvres assez originales, c'est Mario Cavalieri. Et donc lui, c'est un artiste qui a représenté des gens au bord de l'eau. Et ça peut faire penser au déjeuner sur l'herbe, un peu de Manet.
J'ai
voilà,
pensé, j'ai fait style-là. Aussi ce rapprochement.
Et ensuite, il a représenté le prieuré de Saint-Ourens aussi, qui est une église donc dans le Gers. Et ensuite, j'ai choisi des œuvres de Vincent Dumollard aussi, qui est un artiste qui a beaucoup voyagé dans toute la France. Et c'est vrai que c'est des artistes qu'on n'attendait pas forcément. Et le Gers est mis en avant de façon... Oui, c'est différent, mais après, c'est quand même un bel endroit de toute façon, le Gers. Je crois qu'on l'appelle la Toscane du Sud-Ouest.
Oui.
Et donc, je pense que c'est quelque chose qui attire aussi les artistes, de toute manière.
Oui. Tout à fait. L'Hérault, vous avez parlé aussi, on le disait, c'est plus côté languedocien. Ça, c'est un territoire aussi qui est plein de soleil. Est-ce que pour les peintres paysagistes, c'est un Graal? Ou c'est un paysage bien ensoleillé que l'on peut facilement repeindre.
Ça peut être aussi un peu... c'est entre les deux, on va dire. Ça me fait penser... Là, j'ai deux images en tête. Je pense à des reproductions qu'on a mis sur la ville de Sète. Mmh. Et plusieurs artistes ont fait un peu pareil à Collioures. Et Collioures et Sète, en fait, c'est deux spots intéressants dans le sud-ouest qui ont vraiment attiré les artistes et où on peut retrouver régulièrement des vues de ces endroits-là. Notamment, je pense aussi à René Aspe, une peintre toulousaine qui a beaucoup peint Sète et qui a peint Collioures aussi. Donc, en plus, justement, elle fait les deux. Et donc, c'est des endroits vraiment qui attiraient beaucoup les artistes. Et on s'est amusé dans le livre à mettre un peu les mêmes vues, mais faites par différents artistes. Et on s'aperçoit que vraiment, on peut faire des choses très différentes d'un même endroit.
C'est vrai. C'est vrai. Audrey, nous allons faire une petite pause musicale pour reprendre un petit peu notre souffle et pour nous permettre de reposer nos jambes parce qu'il y a un moment qu'on marche.
C'est vrai.
Qu'avez-vous choisi et pourquoi ?
Une œuvre de Thomas Dutronc qui s'appelle Qui je suis. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime sa fraîcheur, j'aime le jazz manouche. Voilà, ça me plaît beaucoup.
Oui.
Et donc, je trouve que c'est très entraînant et il a toujours des clips avec plein d'humour. Et puis j'aimais beaucoup aussi son père Jacques Dutronc et je trouve qu'il est dans sa lignée un peu à la fois un peu farfelu et puis qu'il trouve aussi des choses assez poétiques voilà, dans ses chansons.
Et qui dit ce qu'il faut dire.
C'est ça.
Eh bien on va l'écouter.
Merci.
Voisin du dessus, pour le voisin du dessous, je suis qu'un reflet pour la glace. Un casseur pour les noirs, un CV pour la place. Oh, dis-moi que je suis tout pour toi. Un siffleur pour mon verre, un ange pour ma grand-mère, un grain de poussière pour l'univers. Je suis qu'un compte pour ma banque, X pour la file d'attente. Oh, dis-moi que je suis tout pour toi. Toutes ces étiquettes qu'on me colle sur le dos, ça m'inquiète. Oh, j'aimerais tant savoir si un jour, je pourrais savoir qui je suis. J'aimerais tant savoir si un jour, je pourrais savoir qui je serai, qui je fus, qui je suis quand je ne suis pas dans ton lit. Je suis qu'un beau pour ta sœur, un mouchoir pour tes pleurs. Je suis qu'une pommade pour ton cœur, un anneau pour ton doigt, un écho pour ta voix. Oh, dis-moi que je suis tout pour toi. Je suis le meilleur pour le pire, une page blanche pour l'avenir. Je suis qu'un miroir pour ton sourire, un avant pour l'après, une tombe pour tes secrets. Oh, dis-moi que je suis tout pour toi. Ces étiquettes qu'on me colle sur le dos, ça m'inquiète. Oh, j'aimerais tant savoir si un jour, je pourrais savoir qui je suis. J'aimerais tant savoir si un jour, je pourrais savoir qui je serai, qui je fus, qui je suis quand je ne suis pas dans ton lit. Solo. Ah.
Ok, one more. Je ne suis pas qui nous sommes quand je ne suis pas qui tu es quand je ne suis pas dans ton lit.
Vous êtes à l'écoute de votre radio préférée et je suis en compagnie de Audrey Marty pour ceux qui nous rejoignent avec son livre Peintes et couleurs d'Occitanie paru chez le Papillon Rouge Édition en octobre 2022. Audrey, la Haute-Garonne n'est pas en reste dans votre livre et ce qui m'a frappé, c'est d'y voir un tableau d'un tout petit village du Volvestre qui s'appelle La Peyrère. Il se trouve que je connais ce village puisque j'ai grandi dans le village d'à côté, juste. Et c'est bien le village tel qu'il est peint dans votre livre. Est-ce que vous connaissez ce village ou est-ce que vous avez été voir ce village ?
Eh bien justement, non, je ne connaissais pas ce village. Et en fait, je l'ai découvert quand je cherchais des œuvres donc pour illustrer la partie dédiée à la Haute-Garonne.
Oui.
Et comme j'avais déjà fait un premier livre, Le Grand Toulouse et ses peintres, je voulais ne pas réutiliser les mêmes tableaux. Et par contre, il y a certains artistes que j'ai aimé retrouver. Et dans Le Grand Toulouse et ses peintres et dans Peintres et couleurs d'Occitanie, il y a Édouard Bouillère. Donc celui qui a peint notamment le village de la Peyrière.
Oui.
C'est un artiste que j'aime beaucoup. Je suis contente que le tableau vous plaise et qu'il soit très représentatif. Et je ne suis pas encore allée là-bas, mais il faudra sans doute que j'y aille, pour me rendre compte
du travail
de l'artiste.
Et
oui.
Quand vous arrivez sur la route, vous voyez ce village-là sur son promontoire, et alors quand j'ai vu ce tableau, je n'avais pas fait attention que c'était la Peyrière. Je dis, mais on dirait la Peyrière. Et alors j'ai regardé l'écriture. Ah ben j'ai dit oui, c'est la Peyrière.
Bon ben au moins l'artiste a fait son travail comme il faut. Là c'est pas comme Paul Cibra qui avait un peu arrangé. Là
oui,
il a fait tel
mais
quel.
Mais même sur le tableau de Paul Cibra, on voit bien le canal du Midi.
Oui,
on voit bien que c'est le Lauragais.
C'est ça, c'est juste que c'est une recomposition. Mais oui.
Oui.
Et Édouard Bouillère, j'aime beaucoup cet artiste. Donc tant mieux si vous pouvez en dire deux mots. C'est un artiste qui, c'était marrant, il disait qu'il était né par hasard, parce qu'il est né, je crois...
À Lille,
le
Nord.
C'est ça.
Oui.
Et il a dit qu'il était né par hasard là-bas, parce qu'en fait, lui, toute sa famille, elle vient du Sud-Ouest.
Ah oui.
Et donc, pendant que ses parents étaient en voyage, il est né. Voilà, c'était pas le... Et donc après, il a dit qu'il était né là-bas par hasard, mais que sa terre vraiment de cœur, c'était le Sud-Ouest. Et il a été professeur, il a été élève et professeur à l'École des Beaux-Arts à Toulouse. Il a participé au début du XXe siècle à notamment l'illustration d'ouvrages sur Toulouse et l'Occitanie. Il faisait les illustrations et d'autres personnes faisaient les textes.
En tout cas, un très beau tableau. Ça m'a fait plaisir de voir que la campagne profonde n'est pas oubliée et qu'il y a comme ça quelqu'un qui veut le mettre en avant et tant mieux. Il y a le Lot, la Lozère. Dans votre livre aussi, ce sont des départements très riches de pierres, de paysages, de beaux sentiers. Est-ce que c'est un rendez-vous incontournable pour les peintres, justement, ces départements-là ? Parce que c'est un patrimoine formidable qu'il y a.
Quand on a commencé, mon éditeur, il était sceptique justement par rapport à la Lozère.
Oui.
Parce qu'on se demandait, mais est-ce qu'il y a des artistes qui ont peint la Lozère ?
Oh oui.
Mais comme c'est un endroit qui est peu peuplé aussi, on s'imagine peut-être pas qu'il y ait un musée, qu'il y ait des tableaux. Et en fait, récemment, justement, à Mende, il y a eu le musée du Gévaudan qui vient d'ouvrir. Donc, j'ai pas encore été le voir. Quand j'ai contacté les conservateurs de ce musée, ils étaient très contents qu'on puisse mettre en avant la Lozère. Et ils m'ont permis de découvrir un artiste local qui s'appelle Victorien Gallière, il me semble, si je ne me trompe pas.
Mm-hmm.
Et donc lui, il est mis en avant dans le musée du Gévaudan aussi. C'est un natif vraiment de la Lozère. Il s'est intéressé à peindre justement ces gros rochers, cette ambiance un peu désertique, ces hauts plateaux.
Oui.
Et c'est vrai que finalement, en tableau, ça rend bien.
Oui.
Et j'invite les artistes peut-être aller aussi puiser l'inspiration là-bas, mais c'est vrai que ça permet aussi de la contemplation. C'est des paysages de contemplation.
Et c'est une autre lumière que l'Hérault, par exemple, qui est bien, très ensoleillée, mais qui en fait est plus lumière d'or, entre parenthèses, si on peut employer cette expression, que la Lozère, ça va être plus une lumière lumière.
Oui, mais je pense que ça, ça peut inspirer les artistes qui ont une palette, justement, de couleurs plus douces, plus éthérées.
Oui.
Et je pense que ça peut aussi inspirer des artistes. Et le Lot aussi a beaucoup inspiré, comme je disais tout à l'heure, Henri Martin.
Oui.
C'est des paysages qui inspirent aussi, et puis qui ont la pierre blanche, tout ça, c'est quelque chose aussi.
La Dordogne
qui est,
avec ses bordures.
C'est ça, voilà, il y a les fleuves,
les
châteaux aussi, Saint-Cyr-la-Poupie, Camadour, donc... Il y a de quoi faire aussi, finalement, partout, partout où on va, on peut faire des tableaux.
C'est vrai. Les PO, entre ciel, terre et mer, une terre d'art pour les peintres du dehors, justement. Est-ce que le climat aussi est une influence pour les peintres ?
Mais je pense que, comme on disait tout à l'heure, pour ceux qui allaient faire des cures dans les thermes, je pense qu'aussi il y en a qui avaient besoin de l'air marin. Et je sais que Matisse était quelqu'un qui était souvent très malade. Et je pense que les premiers temps où il a dû venir, sans doute, c'était un peu pour profiter de cette air de la mer qui faisait du bien aux bronches.
Et oui.
Et souvent, c'est comme ça qu'après, ils se sont retrouvés à... Eh bien, comme ils se retrouvaient à contempler le paysage, eh bien, ils se sont mis à peindre.
Mmh. Oui, en plus, c'est des beaux paysages aussi. Le Tarn, est-ce que c'est la pierre rouge qui donne cette lumière particulière, justement, au tableau que vous avez montré dans votre livre ?
Mais le Tarn, c'est un peu particulier. C'est vraiment, on va dire, un cousin de l'Haute-Garonne.
Oui.
On est vraiment lié justement par cette brique rouge que certains voient orangée ou rosée.
Oui.
Voilà, ça dépend de chacun. Et donc, c'est vrai que quand on se balade dans Albi ou dans Rabastens ou Gaillac, qui sont les principales villes que j'ai mis dans le chapitre du Tarn, ce sont des villes qui ont cette couleur particulière, et ça inspire beaucoup les artistes. Et donc ils aiment bien soit les paysages de campagne, soit ces paysages urbains, mais qui ont quelque chose de très... ils sentent le terroir, on va dire, voilà, pas par le biais des briques.
Oui, en effet. À la fin, le lecteur peut se référer justement à de petites biographies d'artistes que vous avez mis. Pourquoi justement vous les avez mis ? C'est pour montrer au lecteur l'importance du tableau ou l'importance plus de l'artiste ? Parce que c'est impeccable, ça, c'est commode de lire.
Oui, mais c'est vrai qu'on a mis à la fin du livre des courtes biographies de chaque artiste par ordre alphabétique. Comme ça, effectivement, par renvoi de page, on peut retrouver tous les artistes et toutes leurs œuvres, parce que des fois, elles sont disséminées dans plusieurs départements. Et non, c'était un peu pour rendre hommage aux artistes, parce que le livre, comme il y a beaucoup d'images, on n'a pas pu faire trop de textes non plus.
Oui.
C'est pas une monographie qui détaille vraiment la carrière de tel ou tel artiste. C'est vraiment un aperçu général, un panorama de tout ce qu'on peut trouver. Et ensuite, donc, si les gens veulent fouiller un peu plus, effectivement, quand ils ont le nom de l'artiste, certains ont déjà des monographies qui leur sont dédiées. Et donc, on peut un peu plus se représenter leur travail et leur carrière.
En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et ça aide énormément, des fois, à dire, on comprend pourquoi il a préféré, mettons, aller dans les PO, aller en Lozère, aller dans le Tarn ou dans le Gers pour peindre. Qu'est-ce qui vous a le plus passionné pour faire cet ouvrage ? La recherche, la mise en page, comment vous avez fait et qu'est-ce que vous avez ressorti de ce livre ?
Ben en fait, comme j'avais composé le premier ouvrage, Le Grand Toulousain et ses peintres, c'était celui avant Peintres et couleurs d'Occitanie, j'avais déjà un peu rodé ma façon de travailler. D'abord, je recherchais les œuvres. Ensuite, je repérais quel monument ou quelle région ou quel département était le plus représenté. Je me faisais des petits dossiers, on va dire.
Oui.
Donc, c'était un petit travail de fourmi. Et j'aimais beaucoup ce travail de recherche, de découverte, de croisement d'artistes, parce qu'il y en a qui se sont influencés les uns les autres aussi, ou qui se connaissaient, qui se côtoyaient. Et ça, c'était très intéressant. Et puis d'aller... le premier, Le Grand Toulouse, je l'ai fait en plein confinement.
Ah oui.
Et ça a été très compliqué. Je ne suis allée rencontrer les artistes qu'après avoir fait le livre. Tandis que là, au moins dans Peintres et couleurs d'Occitanie, j'ai pu me déplacer dans certains départements et aller à la rencontre de conservateurs passionnés, de descendants aussi d'artistes qui ont voulu mettre en valeur le travail de leur de leurs grands-parents ou de leurs parents. Oui. C'était la plus-value, on va dire, de cet ouvrage-là,
oui,
qui m'a permis d'aller au-delà de mon petit bureau. Et ça, mm-hmm, c'est bien aussi.
L'Ariège, vous en avez parlé aussi, c'est un pays plus froid. En tout cas, c'est ce que l'on pense peut-être en première fois. On dit l'Ariège, il y fait froid, mais les paysages sont à couper le souffle. Franchement, il y a des tableaux magnifiques, un patrimoine remarquable, des animaux. Tout ça, c'est bon pour le peintre de la nature?
Oui, s'il veut s'évader, il y a les Hautes-Pyrénées, voilà, et l'Ariège, et puis le bas de l'Haute-Garonne. Toute la chaîne des Pyrénées, c'est vrai, comme on en parlait tout à l'heure, ça inspire beaucoup. Et ensuite, l'Ariège, comme c'est un petit coin enclavé, il y a quand même beaucoup de folklore qui est resté très vivant, notamment la transhumance, toutes ces choses-là. Et ça inspire beaucoup les artistes. Ça les attire, et je pense que c'est quelque chose qui est important aussi de mettre en avant, ce côté... Oui. Authentique, qui montre les racines en fait de beaucoup d'entre nous.
Tout à fait, c'est vrai. Et au moins, c'est la vraie vie qu'il y a dans les tableaux.
Oui, et puis dans l'Ariège, ce qui m'a plu aussi, c'est notamment à Saint-Girons, il y a le musée du chemin de la liberté.
Oui.
C'est un musée qui met en avant les passeurs qui ont permis des familles à des gens de fuir donc par les Pyrénées, par l'Espagne, ou ceux qui ont fui Franco vers la France. Donc c'est un endroit aussi historiquement qui est très très fort et très important. Et je pense que les Ariégeois ont envie aussi qu'on connaisse ce pan de leur histoire, hein, qui est important.
C'est tout à fait.
Ce côté très humaniste.
Oui, oui, oui. Est-ce qu'un peintre peut prendre ses aises quand il peint, c'est-à-dire quand c'est un peu difficile, comme on disait tout à l'heure, là, pour la peinture de la page 55. Pour, par exemple, peindre, mettons, on peint une maison, on veut la peindre au printemps, et il se trouve qu'on a l'idée en plein mois de septembre, on peut prendre des aises comme ça ou pas?
Ça dépend en fait de ce que l'artiste veut faire.
Il y a, oui.
Là, je pense à justement celui qui était connu pour ça, c'était Claude Monet par exemple, qui a peint, je crois que c'est la cathédrale de Reims, à plusieurs moments de la saison. Et en fait, il peignait toujours la même chose aux mêmes heures. Et après, quand le temps passait, la saison passait, il mettait de côté et puis il revenait plus tard pour vraiment être fidèle à ce qu'il voulait représenter. Ça, c'est le côté impressionniste.
D'accord.
Et après, il y en a d'autres, peut-être que ça... C'est pas forcément le travail de la lumière qui les intéresse le plus, mais le travail sur le motif, sur le paysage. Peut-être qu'ils vont un peu passer outre. Et puis bon, il y en a qui travaillent d'après photo aussi.
Ça,
la photo, ça aide.
Oui.
Après, je suis pas peintre moi-même, mais bon.
Non, voilà. Mais vous êtes une historienne, donc.
Voilà. Mais en ayant côtoyé, je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir vraiment être fidèles.
Oui.
Et d'autres qui vont vouloir mettre un peu la patte de l'artiste, le côté un peu imaginaire aussi.
Oui. Lors de l'Aveyron, le Gard, encore du soleil avec des beaux paysages qui peuvent revenir. Il y a aussi le vent qui aide peut-être le peintre aussi à voir le mouvement dans la nature. Est-ce que c'est plus difficile à coucher ça sur une toile parce que c'est plus plat ces départements finalement? Il y a moins de relief en tout cas qu'en Ariège ou qu'en Lozère ou que dans le Gers. Est-ce que ces pays-là, ce département de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, sont plus difficiles à coucher sur une toile?
En tout cas, je n'ai pas eu trop de difficultés à trouver des représentations de ces départements, donc je pense que quand même ça doit les inspirer. Mais c'est vrai que pour l'Aude, ils ont peint beaucoup, j'ai trouvé beaucoup de versions de Carcassonne, par exemple, parce que c'est un endroit qui inspire beaucoup. Quelques vues de Narbonne, puis beaucoup aussi de Gruissant, voilà, avec la tour de Barberousse, ça plaît beaucoup aux artistes. C'est un peu comme, on va dire, le phare de Collioure, c'est quelque chose d'emblématique. Et donc je pense qu'ils arrivent quand même à trouver de quoi s'inspirer, mais peut-être un peu plus justement sur le côté de la végétation, peut-être des arbres, comme les amandiers qu'a fait Achille Loger, qui trouvent quand même, je pense, des manières différentes d'appréhender le paysage sans qu'il y ait besoin de grandes montagnes ou de falaises.
Oui.
Alors on peut toujours trouver de la beauté partout, et c'est ça qui me plaît chez les artistes, c'est qu'ils arrivent à rendre beau un peu tout.
En effet, et c'est vrai. Et c'est autre chose que la photo. C'est au-delà de la photo, je dirais même, parce qu'il y a de la profondeur dans les tableaux.
Oui, puis la photo, c'est un acte, on va dire, instantané. On fait un clic et puis on passe à autre chose, plus ou moins. Tandis que le peintre, il va retravailler plusieurs fois. Et donc vraiment, c'est touche par touche. Et je pense qu'à la fin, il doit connaître par cœur tous les pixels et les centimètres de son tableau. C'est un travail de fourmi, on va dire, un peu plus.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment un peintre va choisir ce qu'il va peindre sur un site, mettons ?
Ben ça, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de représenter plutôt des personnes, donc il va un peu mettre des figures sur son tableau, ou s'il va préférer de faire des vues urbaines plutôt que des vues champêtres.
Oui.
Donc vraiment, je pense que ça dépend de son goût, de ce qu'il aime représenter ou de ce qu'il a vu, et ce qui peut lui inspirer des choses originales aussi.
D'accord. Est-ce qu'il y a des peintures matières qui soient plus faciles à utiliser que d'autres quand on est peintre de nature comme ça, qu'on est peintre dehors ?
Mais justement, tout ce qui est peinture à l'huile, ça met beaucoup de temps à sécher. Donc peut-être que les artistes vont préférer des fois l'aquarelle ou le pastel, qui est un peu plus facile. Les crayons de pastel, on peut les emporter avec soi.
Oui.
C'est moins contraignant peut-être que de la peinture, quand il faut faire les mélanges, tout ça. Oui, c'est vrai qu'ils vont préférer ça. Ou alors ils vont faire des croquis à la pointe sèche, ou tout simplement au crayon gris, au crayon à papier. Et après, ils vont retravailler aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ou alors, ils font des photos, ils travaillent en atelier. Là, on peut plus utiliser justement la peinture à l'huile, la gouache, qui sont un peu plus... Parce qu'il y a des temps de pause qui font l'artiste, il doit y revenir plusieurs fois.
Mm-hmm. D'accord. Comment est-ce qu'un peintre peut choisir le format de son tableau ?
Mais, en fait, en histoire de l'art, il y a, il y avait à l'époque un règlement qui stipulait qu'en fait que plus le tableau était grand, plus c'était une composition réservée à un type d'art particulier. C'est-à-dire les grands formats, c'était réservé essentiellement aux peintures d'histoire ou aux portraits de grands. Vous imaginez par exemple les tableaux de Louis XIV. Voilà, c'est ces grands tableaux-là.
Oui.
Et plus le motif, enfin le sujet était moins intéressant, plus le tableau était petit. Et les plus petits, c'était par exemple les natures mortes, qui n'étaient pas forcément des choses qu'on admirait.
Oui.
Mais tout à l'heure, je parlais de Blanche-Audin. Et bien justement, le Blanche-Audin faisait des grands formats en aquarelle, justement de nature morte, de vases, de fleurs. Et c'est une des premières à avoir tenté de faire ce genre de choses. Selon les époques, en fait, il y avait des types de sujets plus ou moins à la mode. Maintenant, c'est vrai que les grands tableaux d'histoire, les grands tableaux mythologiques, ça se fait plus trop. Et finalement, c'est le paysage qui domine avec les portraits, ces deux tableaux. Et là, après, ça dépend encore une fois de l'envie de l'artiste, de ce qu'il a envie de faire et de représenter. Mais c'est sûr que quand le tableau est grand, on voit plus les détails.
Tout à fait. D'où là, la qualité du peintre d'aller justement aux détails qui va... peut-être en premier être noyé dans la masse, mais qui après va ressortir aux yeux en le regardant.
C'est ça.
Tout à fait. J'ai trouvé dans votre ouvrage la peinture de la grotte de Gargas. Est-ce que ça, c'est plus difficile ou pas ? Parce que là, on peut y revenir, ça ne change pas. Ce n'est pas comme tout à l'heure, le tableau où les gens chargeaient les gerbes de blé. Ça ne dure que qu'un moment dans le champ. Là, la grotte, c'est... éternellement
en fait, les représentations là de la grotte, notamment, là, ce sont des lithographies. C'est pas forcément des peintures.
D'accord.
Et c'est des lithographies que j'ai trouvées dans des livres dédiés justement au paysage et aux monuments français. Et c'était devenu quelque chose à la mode, en fait, au 19e siècle. C'était au début où on a commencé à inventer justement la notion de patrimoine. Et c'est la naissance des monuments nationaux. Et on a voulu faire un recensement en fait de tous les ouvrages réalisés par l'homme sur le territoire, et on s'est intéressé aux grottes notamment. Mmh. Et là, c'est plus des lithographies, donc encore une fois, c'était des artistes qui faisaient des croquis ou à partir de photographies, et ensuite où ils faisaient des gravures, et ensuite on faisait ces lithographies qui étaient dans des livres. C'était parce que j'avais envie qu'on voit quand même les grottes qui font partie du patrimoine.
Tout à fait.
Et je n'avais pas forcément de vrais tableaux, on va dire entre guillemets. Donc là, c'est une petite exception, la lithographie. Mais c'est un genre aussi qui est intéressant à mettre en avant, puisque ça immortalise cette grotte à une époque où il me semble que sur le tableau, on voit des gens qui sont éclairés à la torche, enflammés, alors que maintenant, ce serait plus une frontale. Petite disparité historique. Hein.
Oui. Vous nous avez parlé de vos recherches. Est-ce que parfois, vous avez été agréablement surprise face à des peintures de peintres inconnus et pourtant talentueux ? Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont inconnus, mais c'est des tableaux waouh.
Après, je ne sais pas si on peut dire inconnu, moi j'ai beaucoup aimé Riton Cazenave,
oui.
Qui est une sommité en Ariège. Il est très, c'est le loup blanc voilà, ariégeois, il est très connu. Moi je ne le connaissais pas du tout et j'ai découvert ses œuvres et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un monsieur qui est très âgé, je crois qu'il ne doit pas être loin d'être centenaire. Et il a donné de son vivant donc, au département de l'Ariège, au conseil départemental, ses œuvres. On peut les voir de temps en temps, elles sont exposées notamment à Foix. Et j'ai beaucoup aimé cet artiste et sa façon de, justement d'appréhender les paysages avec l'aquarelle. Et ensuite, oui, il y a des artistes comme... en Ariège aussi, il y en a un que j'ai bien aimé, que j'ai découvert, c'est François Mison.
Oui.
Et François Mison, en fait, il n'est pas du tout connu. Et c'était un monsieur autodidacte. Et c'est sa petite fille qui a mis en avant son travail sur un site internet. Et j'ai découvert ça par hasard. Et je me suis mis en relation avec donc, sa petite fille et qui m'a vraiment ouvert les archives familiales. Et je suis contente qu'il y ait 3 ou 4 œuvres de son grand-père.
Oui.
Et qui était un monsieur voilà, qui aimait beaucoup, qui venait de, il me semble, à côté de Saint-Girons, le palais des archevêques de... Il venait de Saint-Girons et donc voilà, il aimait beaucoup aller crapahuter avec son sac à dos. Et il a fait de nombreuses vues voilà, de Saint-Lizier. Voilà, c'est ça que je cherchais.
Oui, donc agréablement surprise parfois.
Oui, c'est ça, et même des œuvres aussi d'Henri Martin, on le connaît beaucoup pour ce qu'il a fait dans la salle des illustres au Capitole à Toulouse.
Oui.
Et j'ai découvert des vues de l'arrière-pays qui m'ont aussi bluffé. Et donc comme quoi plein d'artistes peuvent encore nous surprendre, même si oui. On les connaît.
Oui. La couverture, c'est vous qui avez choisi les tableaux pour la faire ou c'est l'éditeur ?
Non, là c'est mon éditrice Alice qui a eu l'idée, qui m'a présenté ce projet là de peintures.
Oui.
Parce que j'avoue que moi j'étais un peu perdue quand elle m'a dit quelles œuvres tu voudrais qu'on mette en avant sur la couverture. Et je savais pas trop parce que j'étais embêtée par cette idée, comme je disais tout à l'heure, de si on met le côté méditerranéen, on oublie un peu le côté oui. Dans les terres. Si on met la montagne et pas la mer, elle a eu l'idée de mélanger ces deux œuvres dont les couleurs sont assez similaires et je trouve que le rendu
magnifique,
ça fait un nouveau tableau on va dire.
Tout à fait. Le papier, c'est vous qui l'avez choisi, le papier des feuilles ?
Non, le papier et puis l'imprimeur, c'est mon éditeur qui l'a choisi. Il travaille avec les mêmes depuis plusieurs années.
Oui.
Et ils sont aussi basés dans l'Hérault. Je suis aussi fière de dire que c'est vraiment un livre occitan, parce que l'auteur est toulousaine et les imprimeurs et les éditeurs sont dans l'Hérault. Donc vraiment, c'est du made in France.
Oui, et en plus, c'est un papier agréable à tourner.
C'est ça.
J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner les pages, je l'avoue.
Oui, mais c'était intéressant dans ce travail-là. C'est vrai qu'on ne va pas faire forcément une version numérique voilà, oui. de ce livre.
Mm-hmm.
Là, c'est vraiment des livres qui sont faits pour être feuilletés, pour être admirés. Et le petit format fait qu'aussi, moi, chez moi, par exemple, dans ma bibliothèque, ils sont sur une petite, un petit chevalet. Et on dirait peut-être une petite œuvre d'art.
Oui,
donc, j'aime bien.
Oui.
C'est un objet en plus d'être un livre.
Oui, c'est vrai. Que vous ont dit les lecteurs qui l'ont déjà lu ?
Mais j'ai beaucoup de retours positifs. Les gens sont très contents de redécouvrir leur région. Il y en a beaucoup qui découvrent des artistes qui ne connaissaient pas. D'autres qui m'ont dit, grâce au livre, je suis allée voir tel ou tel musée.
Oui.
Donc ça fait plaisir. Et après, il y a toujours un peu des râleurs qui me disent qu'il manque certains artistes.
Oui, mais ça,
voilà.
Il
y a ça aussi.
Il y a un choix aussi qui s'est imposé. Et c'est bien de mettre en avant, comme vous le dites dans les pages où vous avez recensé ces 88 artistes, il y a des artistes inconnus. Et donc ça, moi, je trouve que c'est valorisant parce que pourquoi ne pas leur donner leur chance ? Après tout, c'est des tableaux magnifiques, quoi.
C'est ce qu'on voulait faire, justement, mélanger des artistes plus confirmés avec des artistes plus autodidactes,
oui.
Des artistes anciens avec des artistes qui travaillent encore maintenant dans leur
oui.
atelier.
Oui,
donc
oui,
ça, c'était
oui.
intéressant. Et oui, c'est vraiment un ouvrage qui permet cette rencontre-là oui. de plusieurs univers et qui permet aux néophytes comme aux confirmés de découvrir l'histoire de l'art à travers la région de oui. l'Occitanie.
Y a-t-il eu des moments de doute par rapport à des tableaux à mettre ou pas ?
Il fallait que j'en sélectionne 200, puisqu'il y a 200 oui. illustrations. Et moi, j'avais réussi à en sélectionner 300. Et je n'arrivais pas à réduire à 200. C'était très compliqué. J'avais beaucoup de coups de cœur. Et puis selon aussi les rencontres que j'avais faites, j'avais développé une petite histoire avec certains tableaux. Et des fois aussi selon mon texte s'appuyait sur certains tableaux. Donc il y en a qui ont été vraiment obligatoires de les mettre. Mais après, j'ai laissé justement à Alice et Hubert, mes deux éditeurs, le soin de faire l'écrémage, le tri final, parce que vraiment, c'était un peu compliqué pour moi. Mais après, je ne regrette pas du tout ce qu'ils ont choisi, puisqu'il y avait déjà à la base des œuvres que j'avais choisies moi. Mm-hmm. Mais après, il faut aussi, c'est des éditeurs, ils savent aussi, c'est un travail. Ils ont cette notion de la mise en page que je n'ai pas forcément.
Et puis, ils voyaient le travail d'un autre point de vue que vous.
C'est vrai, parce que pour chaque livre, j'ai passé un an de recherche et d'écriture. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est trop dedans, on n'arrive plus à prendre le recul.
À discerner.
C'est ça.
Audrey, il va falloir qu'on se quitte, hélas. Merci de votre confiance et de m'avoir donné, justement, permis aussi de découvrir ce monde inconnu pour moi. J'avoue que j'aime quand même l'art dans toute l'immensité que cela contient. Et c'est vrai que les tableaux, j'aime, mais là, j'ai particulièrement aimé. Je recommande donc encore une fois à nos auditeurs de se procurer ce livre chez tous les bons libraires. Il ne faut pas hésiter à leur demander de commander s'ils ne l'ont pas. Un beau livre. Bravo à vous de l'avoir fait. Merci.
Merci beaucoup.
Je vous laisse le mot de la fin. Pourquoi M dans ta radio ? Ça va être la dernière musique.
M dans ta radio, c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi, que je suis allée voir en concert et qui est vraiment très... très emblématique de la scène française. Donc, je voulais terminer sur cette petite note. Et juste rajouter, j'ai une petite actualité. J'ai même un nouveau livre qui sort le 7 novembre.
Oui.
Donc, c'est une biographie consacrée à Nouma Hawa, qui était une dompteuse de lions de la belle époque. Et je vous encourage à découvrir cet ouvrage qui est publié chez les éditions Métropolis. Donc, c'est des éditeurs suisses. Je m'éloigne un peu de ma région. Mais bon, c'est pour y revenir sans doute prochainement.
Oui. Plus rien à voir avec la peinture, alors?
Non, là, ce sera comme mon premier livre qui était dédié à Jeanne Dieu Lafoy, qui était une archéologue toulousaine.
Oui.
Ce sera Nouma Hawa, reine des fauves. Ce sera sur une dompteuse du 19e siècle. Et en plus de la peinture, j'aime bien mettre en avant les figures historiques de la fin du 19e.
Mais très bien, merci beaucoup. Peinture et couleurs d'Occitanie, de vous, Audrey Marty. Et c'est un magnifique livre. Et bon, le temps va passer, on est juste à peine à la rentrée, c'est vrai, mais il faut penser que le Père Noël peut les porter dans sa hotte, ça ne prend pas de place.
Et pour terminer, je peux dire que vous pouvez suivre mon actualité sur mon site internet audrey-marty.com et notamment je ferai des dédicaces autour de Noël pour les ouvrages.
Ah, c'est super, merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio.
Dans ta radio, dans ta radio.
Faut que je passe dans ta radio. Mystère de ce tube FM éphémère. Dans mon cœur, tu captes et moins de fréquences, malgré nos histoires, nos distances. Et pour que les ondes cette chanson se glisse dans ta maison. Faut que je passe dans ta radio.
Dans ta radio, dans ta radio.
Faut que je passe dans ta radio.
Dans ta radio, dans ta radio.
Faut que je passe dans ta radio. Mais du temps est passé.
Elle a son manière
de te retrouver. Chanter mon hit,
tel une
insolite.
chez ton cœur de bassin. Faut que je passe dans ta radio.
Dans ta radio, dans ta radio.
Faut que je passe dans ta radio.
Dans ta radio, dans ta radio.
Faut que je passe dans ta radio.
Dans ta radio, dans ta radio.
Dans les haut-parleurs. C'est son qui décolle
dans, ta radio.
Dans les airs.
C'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.